15 jours durant lesquels la planète vit pour le sport. C'est la promesse des Jeux Olympiques, une promesse qui ne sera pas tenue cette année en raison de la crise sanitaire mondiale. L'édition 2020 à Tokyo a d'ores et déjà été repoussée d'un an pour le moment. Les premiers Jeux Olympiques dans leur version moderne, on rappelle qu'ils s'inspirent d'une tradition antique, ont été lancés par Pierre de Coubertin en 1896 à Athènes. Depuis, tous les 2 à 4 ans, à travers le monde, les Jeux ont vécu 31 éditions d'été, 23 d'hiver, depuis 1924. Il faudra attendre 1960 pour qu'une version paralympique s'installe dans le paysage sportif. À travers les époques, les Jeux Olympiques n'ont cessé de trouver des mouvements d'opposition. Il faut dire que l'événement des événements a de quoi questionner. Budget monstre, scandale de dopage, corruption, conséquences sociales sur la ville haute retenue, discours idéologiques associés, etc. Face au stade en délire, le sportif, lui, est élevé au rang de champion et de championne depuis 1912. D'autant plus lorsque les Jeux Olympiques s'ouvrent aux sportifs professionnels à partir de 1981. Et oui, avant, l'événement réunissait uniquement des amateurs. Et le champion, au même titre qu'un acteur ou chanteur, incarne alors un modèle pour le public, notamment pour les plus jeunes, capable de performances hors normes qui vaudront autant de recettes publicitaires. Champion donc, et produit. Elle est loin cette première moitié du XXe siècle où les budgets des Jeux étaient modérés. L'édition, reportée à 2021, s'appuie sur un budget de 11,5 milliards d'euros, et ce sont les droits télévisés qui constituent la première source de revenus pour le Comité international olympique. Les Jeux olympiques ont-ils une portée sociale, avec un report sur le niveau d'inscription en clubs amateurs ? Participent-ils à la construction du sport comme besoin, voire comme norme sociale ? Comment évoluer la figure du champion, dont les Jeux olympiques sont le meilleur podium ? Dans quelle mesure le sport peut-il être perçu comme un produit du monde capitaliste ? Des chercheurs s'intéressent à ces questions et éclairent de leur flamme olympique l'objet social que sont les Jeux olympiques, cachés derrière le drapeau de l'universalisme. Piste de réflexion avec l'un d'entre eux, bienvenue dans Chercheurs en ville. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui, notre invité est Michaël Attali, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités à l'université Rennes 2, historien du sport et de l'éducation, directeur du laboratoire Violence, Innovation, Politique, Socialisation et Sport. Et dans cette émission, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et à côté de vous, Christian Lebar pour la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne. Bonjour Christian.
Bonjour Lucie, bonjour à tous.
Colette, c'est à vous.
Comme bien d'autres domaines, le monde du sport aussi a été brutalement touché par la pandémie de coronavirus. Une des conséquences les plus spectaculaires, le report des Jeux Olympiques et Paralympiques en juillet 2021. Dans le passé, certaines éditions des JO ont été annulées. Celles de 1916, 1940 et 1944 en raison des deux guerres mondiales. Mais c'est la première fois qu'une Olympiade de l'ère moderne est reporté. À noter, ces JO qui se dérouleront l'an prochain garderont néanmoins le nom de JO de Tokyo 2020. Michaël Attali, ce report des JO, c'est quoi pour les sportifs et les amateurs ? C'est quoi, une simple contrariété, une déception ou un séisme pour le monde sportif ?
C'est davantage un véritable séisme, parce que comme vous l'avez bien précisé, effectivement, c'est la première fois que dans un contexte pacifique, les Jeux Olympiques sont reportés, ne sont pas encore annulés, même si récemment les organisateurs des Jeux de Tokyo ainsi que la municipalité de Tokyo a annoncé que si la pandémie continuait encore dans les prochains mois, une annulation pure et simple était prévue et que donc il n'y aurait pas de Jeux Olympiques en 2021. Donc effectivement, c'est un séisme pour les sportifs, inévitablement, puisque ils se sont préparés tous depuis au moins 4 ans, voire davantage, parce qu'évidemment, être un athlète olympique, ça ne s'improvise pas. Donc, ça bouleverse leur vie, leur quotidien, évidemment, leur entraînement. Mais au-delà des sportifs, c'est un séisme pour l'ensemble de ce secteur. séisme économique, je pense qu'on en a tous entendu parler, évidemment, alors du plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau des fédérations internationales, mais aussi au niveau local, puisque les petites associations aussi ont perdu beaucoup de leurs revenus, de leur économie, et donc inévitablement il y a une réaction en chaîne qui s'est créée et dont on mesure encore, il faut le dire aujourd'hui, assez peu les conséquences à moyen terme, surtout que le devenir de l'épidémie reste encore en suspens.
À Londres, en présence de leur majesté le roi et la reine d'Angleterre, 82 000 spectateurs et 6 000 athlètes venus de tous les points du monde assistent à l'inauguration des 14e Jeux Olympiques de l'ère moderne.
Extrait de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 1948.
Michael Attali, le laboratoire que vous dirigez à l'Université Rennes 2, le laboratoire VIP-S2, c'est le plus gros labo français en sciences sociales du sport. Il réunit 20 titulaires et 17 doctorants. Depuis plusieurs années avec vos équipes, vous travaillez sur l'héritage des JO. À quoi servent les Jeux? Est-ce que c'est juste 15 jours de fête planétaire ou ont-ils aussi et comment une portée sociale et culturelle?
Alors effectivement, la question de l'héritage, alors c'est un terme qui est en débat aujourd'hui dans la communauté scientifique et un terme avec lequel parfois autour duquel on a des discussions, mais c'est le terme consacré pour le grand public, donc je vais l'utiliser. Effectivement, c'est une question dont on s'est saisi maintenant il y a environ 3-4 ans et qui fait suite en fait à plusieurs programmes de recherche qui sont menés dans le laboratoire depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et effectivement, l'idée, c'est d'interroger les effets à court, moyen et long terme de ce qu'on appelle les méga-events, que sont certes les Jeux Olympiques, mais aussi les Coupes du Monde de football, les Coupes d'Europe de football, de basket ou de handball. Bref, l'ensemble de ces grands événements planétaires, évidemment, qui mobilisent les foules, qui mobilisent les médias, qui mobilisent aussi beaucoup les forces économiques. Et donc, évidemment, comme vous l'avez à juste titre souligné, il est légitime de savoir, de connaître les effets qu'ils peuvent avoir au-delà des 15 jours de festivités que tout le monde connaît, hein, de l'admiration que l'on peut avoir pour les athlètes, pour les champions. D'ailleurs, pas que pour les champions, ce serait l'idéal. Surtout que c'est des événements qui, à l'origine, ont été pensés pour avoir des effets à long terme, hein, puisque le plus connu, Pierre de Coubertin, a pensé les Jeux Olympiques d'abord et avant tout comme une œuvre d'éducation qui devait participer justement à créer de nouveaux rapports sociaux, d'amener de nouveaux publics et de nouveaux acteurs sur les terrains de sport. Et donc évidemment, l'évolution du monde sportif sur le XXe siècle n'a pas forcément pris la direction que le baron Pierre de Coubertin envisageait. Et du coup, aujourd'hui, ces effets sont de plus en plus interrogés, sont de plus en plus mises en doute, souvent à juste titre. Et il n'est pas neutre de constater qu'aujourd'hui, le CIO a de plus en plus de mal à trouver des organisateurs pour son épreuve emblématique, hein, puisque je rappelle tout de même que si Paris a obtenu l'organisation des Jeux en 2024, Paris était la seule candidate, Los Angeles ayant eu les Jeux pour 2028. Donc on voit bien qu'il y a une crise quand même majeure de l'Olympisme parce que ça coûte très très cher et évidemment il faut aujourd'hui faire la preuve, profiter de ces événements pour transformer les territoires, pour créer de nouvelles opportunités en termes d'activité sociale, en termes de cohésion sociale. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, la notion d'héritage est vraiment au cœur des débats des grands événements sportifs en général et des Jeux Olympiques en particulier.
Christian Lebar.
Oui, Michael Attali, vous êtes d'abord un historien du sport et de tout ce qui tourne autour. Donc la perspective de temps long, elle est vraiment intéressante, je trouve, sur une question comme ça. Pour les gens de ma génération, on a été quand même très, très, fait nourrir d'un discours s'agissant des Jeux Olympiques sur leur rentabilité ou sur l'impact économique autour des villes organisatrices, le bilan quasiment comptable des JO, avec accessoirement des réflexions assez intéressantes urbanistiques sur, je sais que vous y serez sensible, sur la reconversion des équipements. Je me rappelle la fameuse histoire de la piste de bobsleigh à Grenoble en 68 ou des choses comme ça. Ce qui est nouveau quand même depuis quelques années, me semble-t-il, c'est des mouvements d'opposition à l'organisation des Jeux Olympiques, des mouvements d'hostilité sur le mode « ça ruine le pays », politiquement c'est très suspect et socialement c'est que dalle. Alors, est-ce que ces mouvements, je ne sais pas comment les appeler, d'anti-Jeux Olympiques, est-ce qu'ils sont simplement plus visibles ou est-ce que ça s'est observé sur le long terme?
Alors, c'est des mouvements qui sont présents dès l'origine, dès le début de la rénovation des Jeux Olympiques modernes, dès le fameux discours de la Sorbonne de 1892, durant lequel le baron Pierre de Coubertin annonce la rénovation des Jeux Olympiques. Vous avez des discours, des positions de plusieurs acteurs de l'époque qui mettent en doute évidemment l'intérêt, la faisabilité, voire la rentabilité, alors à cette époque plutôt sociale qu'économique d'ailleurs, d'une telle manifestation, ce qui conduit d'ailleurs à mettre en difficulté les Jeux Olympiques, parce que les premiers Jeux Olympiques passe relativement inaperçu. Les seconds à Paris en 1900, c'est un flop, puisque vous savez, c'est à l'occasion de l'exposition universelle. Les Jeux Olympiques sont au fin fond de l'exposition universelle, sur un pavillon dans lequel personne ne va réellement. Et puis ainsi de suite, jusqu'aux Jeux d'après la Première Guerre mondiale, on peut difficilement considérer que c'est un succès, ce qui fera d'ailleurs réagir régulièrement Pierre de Coubertin. Et l'une des raisons de ces difficultés, c'est justement les polémiques autour de l'organisation, avec comme polémique emblématique, et donc on revient à la France, c'est les Jeux de 1924, les Jeux de Paris, hein, puisqu'il faut quand même savoir que Pierre de Coubertin est exclu du comité d'organisation des Jeux Olympiques de 1924, nul n'est prophète en son pays, parce que là aussi, certains mettent en doute un certain nombre de perspectives envisagées par le baron. Et donc, en fait, on pourrait presque dire que controverse et olympique, c'est quasiment une constante dans l'histoire du sport. On peut notamment, si on traverse le milieu du XXe siècle, rappeler les grands mouvements de boycott des années 70, puisqu'il y a plusieurs comités de boycott qui sont créés, et notamment en France, beaucoup en France, par l'intermédiaire notamment d'une personnalité très connue dans le monde académique du sport, qui est Jean-Marie Brome. Et qui va aussi beaucoup agir en remettant en cause en fait l'intérêt du sport au sens large du terme, les valeurs qu'il est censé promouvoir, et donc inévitablement là aussi les compétitions sur lesquelles repose la visibilité et la reconnaissance du sport. Alors beaucoup des controverses portent à la fois effectivement sur des questions économiques, mais peut-être encore davantage sur des questions idéologiques. C'est-à-dire que le sport serait le vecteur de promotion ou de propagande d'idéologie, évidemment, controversée. On pense au général Videla pour la Coupe du Monde 1978 de football. Évidemment, on pense à l'occasion des Jeux de Montréal, au boycott affiché des pays africains pour lutter contre l'apartheid. Enfin bref, on voit bien qu'il y a tout un débat autour du rôle propagandiste du sport.
Vous dites que la réussite des JO de Paris 2024 se jouera sur le terrain social. Qu'est-ce que vous voulez dire et qu'est-ce que vous attendez de ces JO?
Alors, à titre personnel, j'en attends pas énormément, parce que c'est pas mon rôle de véritablement de définir ce qu'ils doivent être. Mais c'est vrai que dans ma posture de chercheur, j'interroge en fait les effets des manifestations sportives, notamment. Et du coup, effectivement, il me semble intéressant d'essayer de voir, de mesurer, d'analyser les effets au-delà des compétitions que peuvent avoir les Jeux de 2024, pardon, pas ceux de 1924, notamment dans leur rôle d'effet d'entraînement des pratiques. Pour préciser un petit peu ma réflexion, on a souvent tendance à considérer, par exemple, que les événements sportifs produisent un effet accru, notamment chez le jeune public, pour adhérer à des clubs sportifs à la suite de ces compétitions. Or aujourd'hui, il est avéré de considérer qu'effectivement, on a un accroissement du nombre de pratiquants l'année qui suit les compétitions internationales, puis une stabilisation et au bout de 3 ans, un affaissement des effectifs des clubs et des fédérations. Donc en fait, on s'aperçoit que les grands événements sportifs n'ont quasiment aucun effet sur la pratique de tout un chacun, la pratique populaire, parce qu'en fait, les Jeux olympiques ou les grands événements ne sont pas pensés pour ça. Et l'un des enjeux des Jeux de 2024, c'est justement de penser, à mon avis, des dispositifs d'accueil à destination des publics qui aujourd'hui sont à la périphérie du monde sportif, pour leur permettre de profiter de cet appel d'air et de s'impliquer, de pratiquer une activité sportive à des fins multiples et variées, pas forcément compétitives, et qui permettrait de donner un sens nouveau au sport. Et je crois que l'un des enjeux fondamentaux aujourd'hui, il est à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on le voit bien, si on est dans un contexte de crise sanitaire où le sport a beaucoup fait parler, a beaucoup été mis en scène, notamment, je pense, aux réseaux sociaux. Et on voit bien ce besoin de renouvellement du rôle du sport dans nos sociétés contemporaines.
Christian Lebar.
Oui, je voudrais revenir sur les controverses autour du sport et sur les interrogations sur sa légitimité, sur sa place, sur son rôle. Vous évoquiez la figure très importante, effectivement, en sciences sociales, en France en tout cas, de Jean-Marie Brome, qui, pour dire les choses très brutalement, n'aimait pas le sport et qui a écrit des milliers de pages contre le sport. Alors, on a envie de dire, moi j'ignorais complètement les polémiques sur les JO. On voit bien que l'histoire, en tout cas pour les non-spécialistes dont je fais partie, l'histoire elle est racontée par les vainqueurs. On a toujours l'impression que c'est une belle histoire et les controverses sont un peu oubliées. Aujourd'hui, sport, c'est plutôt conjugué au modèle républicain, à ce que vous appelez dans vos travaux la citoyenneté républicaine. Il y a une citoyenneté sportive qui d'une certaine façon, est une variante de la citoyenneté républicaine. Et j'ajoute, le sport est aussi renvoyé à un idéal de santé publique, ce qui contribue beaucoup à le légitimer. Dans les travaux critiques des années 60, c'est des choses qu'on n'entend plus beaucoup aujourd'hui, mais il y avait une critique extrêmement intéressante qui était de dire que le sport est au service du capitalisme. Et cette critique, elle aurait pu se démultiplier, elle a dû se démultiplier du fait de l'hypermédiatisation et surtout de l'irruption de l'argent, de la professionnalisme, des enjeux considérables liés au JO, au club de foot, etc. La question serait comment le chercheur.
Quelle est la question ?
La question est comment le chercheur se situe un petit peu dans toutes ces controverses. Est-ce qu'on les prend pour objet ou est-ce qu'on arrive à s'en défaire ? Qu'est-ce qui reste de cette critique du sport comme auxiliaire du capitalisme ?
Alors, j'aurais une réponse à plusieurs niveaux peut-être. Alors déjà, aussi étonnant que cela puisse paraître, Jean-Marie Brome a développé une critique très acerbe effectivement du sport, des acteurs du sport, mais lui-même était un sportif de haut niveau. Il ne faut pas l'oublier.
Ça ne se devine pas quand
même. Oui, puisqu'au début des années 60, il rentre à l'École normale supérieure d'éducation physique, à l'ENSEP, pour devenir professeur d'éducation physique. Et donc, il est membre de l'équipe universitaire de l'escrime. Donc, c'est quelqu'un qui est très impliqué, qui connaît parfaitement de l'intérieur le monde du sport, en fait. Donc, c'est assez intéressant aussi d'avoir ça en tête. Et plusieurs anecdotes, elle laisse à montrer que c'était quelqu'un qui, dans les années 70, était passionné, années 70, 80, 90 d'ailleurs, était passionné par les matchs qui étaient diffusés à la télévision. Donc voilà, il y a plusieurs figures du personnage, mais peut-être aussi que c'est parce qu'il était passionné qu'il a développé une telle critique de ce qu'il considérait comme étant des formes de dérapage de ce que devait être le sport.
Où est l'imposture ? D'abord, l'imposture, elle est au sein même de la Charte olympique, puisque la Charte olympique prétend attribuer les Jeux à une ville. Bon, or chacun sait que la ville est toujours une infrastructure, soit la capitale d'un État, et que aussi bien Berlin 36, Moscou 80 et Pékin 2008, mais tous les autres États également, Séoul en 88, les États-Unis, etc., et l'Angleterre en 2012, les États ont intérêt évidemment à organiser leur jeu à leur manière. Donc finalement, c'est en effet la reconnaissance d'un État et d'une politique. En tous les cas, une immixtion, si je puis dire, dans la politique de cet État.
Vous venez d'entendre un extrait de Pékin 2008, la charte de l'olympisme, une imposture. Interview réalisée par les éditions André Versailles en 2008.
Alors, la dimension capitaliste du sport, donc elle a été effectivement travaillée par Jean-Marie Brom, avec cette fameuse expression que le sport serait un appareil idéologique d'État. Mais je dirais que d'autres chercheurs, et je pense notamment à Norbert Elias, qui a beaucoup travaillé aussi sur ces questions-là, ont bien montré, Alan Goodman également aux États-Unis, ont bien montré que effectivement le sport était un produit du monde capitaliste en fait. Effectivement, il naît au cœur de la révolution industrielle en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France, et effectivement il est caractérisé par toute une série de valeurs que l'on retrouve dans le modèle capitaliste, le dépassement de soi, le travail, le sacrifice, la compétition, la hiérarchie, un certain nombre de règles communes auxquelles on doit adhérer. Bref, on voit bien que le sport n'est pas uniquement une pratique, il est d'abord et avant tout une pensée. Et je crois que c'est ça qu'il faut aussi bien dire, avoir en tête, pour essayer de comprendre à la fois le processus de transformation du sport sur le long XXe siècle, mais aussi saisir aujourd'hui ce qui se joue autour du sport et de ses formes de pratique. Et donc, là, troisième niveau de réponse, effectivement, aujourd'hui, il y a encore pas mal de chercheurs qui essayent de travailler. Alors, on en a dans le laboratoire qui travaille justement sur la question des controverses et notamment, on a un collègue qui a travaillé il y a quelques années sur les référendums qu'ont organisé plusieurs des villes candidates aux Jeux Olympiques, à l'organisation des Jeux Olympiques. Et ce qui est intéressant à constater, c'est que dès qu'il y a un référendum, la réponse est négative. Je pense à Budapest, je pense à Rome, j'en oublie certainement. Sur ces dernières années. Donc, on voit bien que la population, lorsqu'elle est sondée, manifestement, n'est pas très concernée ou inspirée pour soutenir une organisation, encore une fois, souvent lourde au niveau économique, déstabilisante au niveau social, social et culturel. On a tous en tête ces habitants de Pékin qui ont été excommuniés et qui sont sortis de la ville. On a eu la même chose à Londres en 2012. Donc, on voit bien que c'est pas rien d'organiser des Jeux Olympiques. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, effectivement, le report des Jeux de Tokyo, nous de Rennes, ça nous paraît effectivement peut-être un petit peu lointain, mais j'oserais le terme de tsunami lorsqu'on se situe dans la ville qui va organiser les Jeux Olympiques, parce que c'est tout un territoire qui est totalement déstabilisé.
Nous allons faire une pause en milieu d'émission et nous reprendrons après avec les thèmes des champions et aussi le thème peut-être paradoxal de confinement et de pratiques sportives. Donc on fait une pause musicale. Open up your, open up your, open up your throat and let the all of that time, all of that time, all of that time go. I know it sucks that daddy's dumb, but try to think of what you want. You got to open up your, open up your, open up your throat. Man! Open up your, 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 open up your throat. Open up your, open up your, open up your throat and let the whole of that down.
The Sport par le groupe Animal Collective. Vous écoutez Canal B sur 94.0 et c'est la deuxième partie de Chercheurs en ville qui débute, une heure consacrée à la recherche universitaire, aujourd'hui en compagnie de Mickaël Attali, professeur des universités à Rennes 2, historien du sport et de l'éducation et directeur du laboratoire Violence, Innovation Politique, Socialisation et Sport. En première partie d'émission, notre invité a décortiqué l'histoire des Jeux Olympiques et a exploré les différentes facettes de cet événement sportif qui compte autant d'admirateurs que de détracteurs dans un jeu d'équilibriste entre spectacles prônant l'universalisme et dérives d'un objet social produit du capitalisme. À présent, intéressons-nous à la figure du champion dont le visage a évolué depuis les premiers Jeux dans leur version moderne. Un événement qui amène, plus que jamais, à penser le sport comme un objet social et politique et qui est même devenu une norme. On ne peut que le constater à la sortie de cette période de confinement.
Qui dit JO dit grand champion et championne. Mickaël Attali, vous avez étudié la figure des grands champions depuis les années 60. Comment a-t-elle évolué ?
Alors, elle a évolué à plusieurs niveaux. Déjà, elle a évolué au niveau de leur visage. Puisque jusqu'aux années 60, en France, le champion est d'abord un homme, jeune, plutôt urbain et blanc. Évidemment, la grande absente est la femme, la championne. Pourtant, on a des athlètes de renommée mondiale en France. Hein, je pense notamment à l'incontournable Micheline Ostermeyer, qui est la grande gagnante des Jeux Olympiques de Londres en 1948 et qui passe totalement en dehors des radars médiatiques. L'une des raisons pour lesquelles probablement elle est marginalisée, c'est qu'elle est championne olympique de lancer de poids, qui n'est pas une épreuve considérée comme étant légitime pour les femmes à cette époque-là. Par ailleurs, c'est une virtuose, une grande pianiste, Donc c'est quelqu'un qui ne connaîtra pas la gloire médiatique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on compare, encore une fois, sur cette Olympiade, Michel Ostermeyer avec d'autres athlètes français qui, eux, ont des résultats assez mauvais, ben, les hommes, eux, ont une visibilité médiatique assez incroyable. Et je pense à Alex Jany, dont tout le monde, avant les Jeux, pense qu'il va gagner plusieurs médailles olympiques, médailles d'or olympiques, qui n'en gagne pas une seule, qui fait quasiment pas de finale olympique en natation, et qui pourtant fait la une des médias avant, pendant, après. Donc on voit que la perception du champion est orientée vers un profil très, très particulier. Alors effectivement, à partir des années 60, les choses évoluent, hein. La première figure féminine dans le monde du sport, c'est pas la seule, hein, mais celle qui va marquer les esprits, c'est Christine Caron, évidemment, hein, qui devient vice-championne olympique à Tokyo, en natation. Déjà à Tokyo.
Christine Caron, qui pour les intimes, l'enfant prodige de la natation française, est un véritable petit poisson. Remarquez bien qu'il lui arrive quand même de sortir de l'eau de temps en temps. Quand elle n'est pas dans une piscine, elle écoute Richard Anthony ou bien elle dévore, car elle a un appétit d'ogre. C'est sous la direction de son entraîneur Suzanne Berliot qu'elle parcourt ainsi 1000 km par an à la nage.
Aux 85 mètres, elle gagnait. Et imperceptiblement, cette Ferguson lui a grignoté quelques centimètres et a touché la première. Quelle horreur! Les trois premières avaient battu le record du monde. C'était quand même une belle course.
C'était un extrait de l'émission Vivement la télé du 7 mai 2017 sur France 2.
Christine Caron, qui va évidemment permettre au sport d'accroître sa visibilité au sport féminin, et qui va aussi permettre des processus d'identification des petites filles, qui désormais peuvent envisager, elles aussi, de performer dans les piscines, dans les stades ou dans les gymnases. Mais en même temps, on voit bien que le traitement médiatique de Christine Caron est un traitement particulier, parce que ce qui fait la une, c'est certes ses performances, mais c'est dès que l'on peut, ses affaires de cœur, ses liens avec certains athlètes, ses difficultés dans la vie quotidienne. Bref, on voit bien qu'on est dans la construction d'une figure relativement stéréotypique de ce que doit être une femme dans la société des années 60. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver assez régulièrement, hein, quand on passe par exemple à la couverture médiatique des victoires de Laure Manoudou en 2004, à l'occasion des Jeux d'Athènes, hein, on voit que les unes des médias généralistes sont souvent des unes qui mettent en avant sa plastique, là aussi ses sentiments affectifs, mais finalement assez rarement son niveau est assez extraordinaire dans son activité de prédilection, à l'inverse de ses coéquipiers masculins qui, eux, sont d'abord et toujours et avant tout appréhendés par l'intermédiaire de leur qualité sportive. Et l'évolution, en fait, montre aussi que le champion, depuis les années 60, est sorti des terrains de sport, en fait. On voit bien un processus qui conduit à en faire, finalement, un héros moderne, je le disais plus rarement, une héroïne, voire la construction de mythes. Alors évidemment, quand on construit un mythe, on essaie d'évacuer tout ce qui ne rentre pas dans le cadre prédéfini. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le champion a remplacé d'autres figures populaires qui étaient à la mode il y a encore quelques années. Je dirais qu'aujourd'hui, le sport est peut-être une des dernières utopies modernes. Et du coup, ceux qui incarnent les utopies ont aussi une visibilité toujours plus grande et toujours plus importante.
Donnez des exemples quand vous dites ça a remplacé d'autres figures. Quelles figures et de quelle manière?
Ben, je dirais que, alors peut-être que le terme de remplacement est exagéré, mais je dirais que le sportif, en fait, incarne, je l'évoquais tout à l'heure, des valeurs, en fait. Des valeurs de toute puissance, de conquête, de progrès, de santé, évidemment. On voit bien souvent les images très épurées des sportifs, qui renvoient évidemment à un modèle de santé bien particulier, qui a parfaitement analysé notamment quelqu'un comme Georges Vigarello dans ses travaux. Hein. Et que donc du coup, notamment les figures du show business aujourd'hui sont de plus en plus entre guillemets concurrencées par les figures médiatiques des sportifs. Hein. Aujourd'hui, je suis pas certain que tout le monde connaisse les grands artistes français populaires. Par contre, je suis certain que quasiment tout le monde connaît un Teddy Riner. Ou un Zinedine Zidane ou je ne sais quel champion qui incarne une nouvelle forme de modernité.
En fait. En préparant cette émission avec Christian, on disait aussi à quel moment les grands champions et aussi maintenant les grandes championnes deviennent des porte-manteaux, des porte-marques pour des vêtements, pour des parfums. Est-ce que dans l'histoire des 40, 50 dernières années, ils faisaient déjà de la pub? On n'avait pas de souvenir de ça.
Alors, question intéressante, mais en fait, là aussi, l'histoire nous apporte un certain nombre de réponses parce que c'est quasiment consubstantiel à la naissance du sport. C'est-à-dire que, alors que le sport s'est fondé sur le principe d'amateurisme, ce qui d'ailleurs a conduit à des formes de discrimination sociale, parce que si on devait être amateur, il fallait avoir quand même de l'argent pour vivre, et donc inévitablement, c'était plutôt les catégories socialisées qui avaient la possibilité de pratiquer le sport. Mais dès le départ, en fait, il y a des affaires de transgression, hein, c'est-à-dire certaines personnes qui, pour pratiquer leur activité favorite, sont obligés de gagner de l'argent, donc démarchent auprès de certaines marques. Alors évidemment, ça a été souvent le cas avec le cyclisme dès le début du XXe siècle. En athlétisme aussi, dès les années 20, avec un nom qui n'est peut-être pas très connu aujourd'hui, mais qui va faire la une des médias, qui s'appelle Jules Ladoumègue, qui est un très grand athlète français, mais qui est promis à plusieurs titres olympiques, et qui va être disqualifié par sa propre fédération, la Fédération française de l'athlétisme, pour fait de professionnalisme, parce qu'il avait gagné quelques dizaines de francs à l'occasion d'une compétition sur route à l'époque, et donc il ne participera pas aux Jeux olympiques pour cette raison. Donc en fait, le rapport du sport avec les milieux économiques est une constante. Alors évidemment, qui va devenir autorisé à partir des années, on va dire après la Seconde Guerre mondiale, de plus en plus de marques soutiennent les sportifs, et on sait qu'à partir des années 80, les athlètes professionnels sont accueillis aux Jeux olympiques avec la fameuse Dream Team américaine qui va évidemment faire sauter tous les verrous qui pouvaient exister jusque-là.
Christian,
je suis frappé en vous écoutant et en vous disant par les parallèles qu'on peut faire avec d'autres univers sociaux qui, à mon avis, ont subi des mutations à peu près homologues. Je pense au monde du spectacle en général, au monde de la chanson, de la musique. Et alors là, le parallèle est plus audacieux, mais il renvoie à mes propres préoccupations de chercheur. Je pense aussi à l'univers politique. J'ai été très frappé de ce que vous disiez il y a un instant sur la professionnalisation politique, sur la professionnalisation des sportifs, parce que d'une certaine façon, il y a exactement le même débat, enfin exactement de proportion gardée quand même, mais sur les transformations du monde politique sous l'effet de la professionnalisation. Et alors, je voudrais revenir sur le modèle un peu dépassé, qui est au fond un modèle d'exemplarité patriotique, on pourrait dire ça comme ça, hein, de Nadia Comaneci à Jean-Claude Killy, au fond, le champion idéal dans les années 60 et encore 70, c'est le professionnel qui a toutes les vertus de l'amateur et qui est d'abord attaché à la communauté nationale, voire au régime politique, mais bon, la communauté nationale, disons, qu'il symbolise. Donc, c'est la fabrique d'icônes, c'est la fabrique de sportifs exemplaires conformes aux valeurs de l'époque, hein, avec tout ce que ça suppose de réduction, évidemment. Et ma question, c'est effectivement, est-ce qu'il reste encore un peu de ça? Alors, ce qui est fascinant, c'est de voir comment à la fois les politiques, les médias vont essayer encore de bricoler des totems, des icônes nationales à partir des performances sportives, mais d'une certaine façon, comme les sportifs sont quand même d'abord maintenant adossés, comme la gloire sportive est davantage adossée, me semble-t-il, à des marques et au capitalisme international plutôt qu'à une vision strictement nationale, ça ne marche pas complètement, quoi. Enfin, et puis l'exemplarité, enfin bon. Pensez à McEnroe dans l'univers du tennis, on voit bien qu'il y a un moment où les médias ont besoin de ça. Ils adorent ce type qui se comporte comme un voyou. Et il y a une tension dans le commentaire des médias de l'époque sur est-ce qu'il faut continuer à. Est-ce qu'il faut s'indigner ou est-ce qu'il faut s'extasier, quoi. En termes de valeurs républicaines, il faut s'indigner, mais en termes de professionnels des médias, c'est génial, ce type est formidable, quoi. Voilà, est-ce que c'est. Comment aujourd'hui la question se pose-t-elle ?
Alors, effectivement, moi je crois que l'une des raisons des difficultés pour les médias, mais au-delà des médias, pour l'opinion publique, hein, de passer à l'acte de la critique du sport, c'est ces fameuses valeurs qui sont associées en fait au sport et qui sont considérées comme étant des valeurs qui lui sont consubstantielles en fait. Vous avez cité l'exemple de McEnroe, je pense à l'exemple de Richard Virenc à la fin des années 90. Regardez l'exemple de Lance Armstrong qui pendant 10 ans n'a pas été inquiété alors que tout montrait, mais tout prouvait que il était compliqué pour un homme normalement constitué d'avoir de telles accélérations ou de parcourir à de telles vitesses des étapes à fort déclivité. Donc en fait, effectivement, il y a toujours cette tension entre effectivement des doutes ou une image qui peut être écornée, mais en même temps, dans un domaine, le sport, qui est considéré comme étant un domaine pur, sain, et qui finalement tend à dépasser des formes de dérive de certains. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de constater que finalement, c'est souvent le sportif qui dérape, mais j'ai rarement été interrogé la logique intrinsèque du sport, en fait. Parce qu'effectivement, hein, quand on est dans une activité sociale où il y a de la hiérarchie, où il y a de la compétition perpétuelle, où il y a des charges d'entraînement, donc de travail, qui sont phénoménales, on peut considérer qu'il peut y avoir de l'aide pharmaceutique, on peut considérer qu'il peut y avoir de la violence, on peut considérer qu'il peut y avoir des affrontements interindividuels. Bref, on peut considérer que le sport est une activité sociale, mais comme une autre. Et votre parallèle avec la politique ou la culture, effectivement, il est extrêmement pertinent, quoi, parce qu'on a tendance finalement à considérer le sport comme un espace autonome. Moi, ce que je dis souvent à mes étudiants, un peu un apesanteur social, alors que le sport est un objet social, en fait. Et comme tout objet social, il est porteur des stigmates de la société ou du contexte dans lequel il se développe, en fait. Donc effectivement, on voit bien, encore une fois, cette tension entre deux manières de l'appréhender et qui, aujourd'hui, est peut-être pas totalement résolue. Là aussi, je prends souvent l'exemple des discours des présidents de la République, hein. En comparant les discours des présidents de la République sur le sport de l'entre-deux-guerres et les discours des présidents de la République de ces 10 dernières années, on est saisi par la naïveté avec laquelle ils peuvent appréhender le sport, quoi. Tout est merveilleux, tout est beau, tout est gentil.
De donner deux ou trois exemples, voilà, de ces interventions de présidents.
Ouais, alors j'ai pas en tête les phrases exactes, mais en fait, ce qui est intéressant, alors les auditeurs pourront les réécouter. Je pense notamment aux nombreux discours qu'a pu faire Nicolas Sarkozy, au discours qu'a fait l'année dernière Emmanuel Macron en Afrique. Je crois que c'était au Nigeria.
Nous venons d'apprendre la bonne nouvelle, la décision du Comité international olympique d'attribuer à Paris les Jeux Olympiques pour 2024. Alors je voulais avec vous me réjouir et d'abord remercier le Comité international olympique de donner à la France, 100 ans après les JO, à nouveau l'organisation des Jeux Olympiques. En effet, depuis 1924, nous n'avions pas eu l'organisation de ces Jeux Olympiques d'été et c'est une formidable reconnaissance de la place de la France dans l'Olympisme.
Extrait d'une interview d'Emmanuel Macron en duplex de Pointe-à-Pitre diffusée sur BFM TV le 13 septembre 2017.
Mais on peut trouver aussi d'autres discours de la part de Jacques Chirac, moins de François Mitterrand qui était manifestement moins intéressé par ce domaine-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des clivages politiques, tous mobilisent la question des valeurs, en fait, de la question des vertus, de la bienfaisance, des effets de transformation que connaît un pratiquant dans sa confrontation au sport. a vu, je pourrais prendre un autre exemple, notamment dans les années 80-90, et quand on découvre que les métropoles françaises ont des quartiers, ce qu'on va appeler après les quartiers, et ces quartiers connaissent pour certains des flambées de violence. Il est saisissant de constater que pendant 20 ans, quand il y a un phénomène de violence, on fait quoi ? On construit des terrains de basket, en fait, qui sont des outils de pacification sociale. Comme si les règles que l'on apprendra sur les terrains de basket seront mécaniquement transférées dans la vie sociale. Donc, c'est pour ça que je disais, il y a une forme de naïveté des responsables politiques lorsqu'ils s'attaquent ou lorsqu'ils se saisissent de la question sportive. Naïveté dont on n'est toujours pas sorti, malheureusement.
Est-ce que la pratique du sport toutes ces dernières semaines ou en pleine période de confinement, tout le monde court, tout le monde pédale, tout le monde fait du yoga, ça a apaisé aussi les choses ou pas? Et comment vous voyez cette chose paradoxale dans les attestations de sortie, il y avait pour aller chez le médecin, pour faire des courses de nourriture importantes, etc., mais il y avait aussi la pratique sportive. Qu'est-ce que vous avez à dire de ça?
Alors, pour ce qui est de savoir si ça a apaisé les gens, j'aurais pas de réponse parce qu'il y a pas de. Enfin, il y a des enquêtes actuellement qui sont menées, donc on aura des réponses, je pense, dans quelques mois. Notamment, on a beaucoup de travaux de collègues en sociologie, en psychologie sociale, notamment de mon laboratoire, qui ont lancé des questionnaires. Donc voilà, on aura des réponses. Mais moi, ce sur quoi je voudrais revenir. Parce que c'est assez saisissant quand on travaille sur le sport et notamment dans le domaine de l'histoire mais du sport, c'est effectivement, comme vous l'avez mentionné, cette fameuse attestation, ce qui n'est quand même pas rien. C'est-à-dire que je crois que dans la première version de l'attestation, de mémoire, mais je peux me tromper, il y avait 6 raisons pour lesquelles on avait le droit de sortir. Et parmi les 6, il y avait pratiquer du sport. Ça a l'air de rien. Mais je prends aucun risque à dire que si on avait connu pareille crise il y a une vingtaine d'années, c'est quelque chose qui ne serait jamais apparu comme étant essentiel en fait. Donc on voit bien que c'est aussi un élément, un indicateur qui témoigne de la manière dont le sport aujourd'hui est devenu une pratique sociale de référence incontournable pour tout un chacun. Et que dans ces périodes de crise, en fait, il est passé à l'état de besoin. Alors évidemment avec toutes les caricatures que l'on a pu voir aussi, hein, les opportunités, parce qu'il y a des effets d'opportunité, l'explosion des coachs sportifs qui parfois quand même ont des compétences qui mériteraient d'être discutées, surtout quand ils sont soutenus par le ministère des Sports. Et d'ailleurs les réformes du ministre Blanquer ces derniers jours là, ce fameux 2S2C mis dans les collèges et les lycées, sur lesquels il y a beaucoup à dire, hein, témoigne que finalement le sport est davantage une occupation, une animation, que véritablement un outil d'éducation pour ce qui est des enfants qui sont scolarisés dans les collèges et les lycées.
Christian.
Oui, vous parlez de besoin de faire du sport, on pourrait parler de droit au sport à travers effectivement ce formulaire administratif un peu baroque, mais on pourrait quasiment parler d'injonction à faire du sport. Hein. On voit bien que la pratique sportive a basculé du côté de la norme. Hein. Faites du sport et ne vous déconfinez que le temps de faire du sport et après rentrez chez vous et il vaut mieux passer en courant qu'en marchant. Et il me semble que c'est intéressant parce que ça consacre complètement l'équation sport égale santé mentale et physique, mais ça consacre aussi une autre équation qu'on n'a pas temps d'aborder dans l'échange, mais qui est l'équation sport égale individualité, car ce sport-là est un sport parfaitement individualisé avec musique sur les oreilles, etc. Donc, on est là, pour le coup, très loin d'un idéal républicain qui plaidait plutôt pour des pratiques collectives, sinon sport d'équipe, sport avec d'autres quand même.
Effectivement, j'irais même au-delà, le sport connecté aujourd'hui, c'est un sport de soi, avec soi et à l'exclusion de tous les autres en fait. Alors effectivement, dans le cadre de la crise sanitaire, ça tombait bien puisqu'on n'avait pas le droit d'avoir des échanges avec des personnes, mais je suis effectivement, on voit bien que la tendance aujourd'hui de plus en plus forte est de considérer que le sport aussi est un moyen de s'isoler. Après, pour ce qui est des normes sanitaires, c'est pas si nouveau que ça, puisque c'est pareil. Depuis le début du XXe siècle, le sport santé a toujours été présent, a toujours été considérée comme étant une perspective à valoriser, notamment par l'intermédiaire des milieux médicaux, hein, mais sur lequel, évidemment, il est légitime de s'interroger, parce que est-ce que le sport est un outil de promotion de la santé, comme est-il un outil de promotion de la cohésion sociale? Évidemment, c'est pas si évident que ça, parce que le sport, c'est la santé, c'est remis en doute par beaucoup de médecins. D'ailleurs, il suffit d'avoir pratiqué soi-même un petit peu de sport pour vite s'apercevoir qu'on a très vite mal au dos, mal aux articulations et d'autres micro-pathologies qui peuvent avoir des conséquences ultérieures. Donc, effectivement, cette injonction normative à l'égard des pratiques sportives, elle mérite d'être discutée et d'interroger. Mais elle s'inscrit aussi dans l'injonction de l'apparence, hein, parce qu'évidemment, l'image du sportif sain, mince, musclé, beau, blond, cheveux coupés courts, voire plus du tout de cheveux, évidemment, elle renvoie à ce que doit être un individu normal, quoi.
Est-ce qu'au sein de votre laboratoire, vous avez fondé des équipes sportives ?
Non, pas encore. Non, on travaille sur le sport. On considère que le sport est un révélateur des transformations sociales, mais ce qui ne veut pas dire que nous-mêmes pratiquons tous une activité sportive. On l'a eu fait dans nos jeunes années, mais aujourd'hui, c'est plus forcément systématique pour tout le monde.
Nous allons dans peu de temps terminer l'émission, et bien sûr, on voulait vous demander comment le confinement a impacté vos travaux de recherche pour vous et pour votre équipe.
Alors effectivement, ça a eu des conséquences très importantes, hein, mais d'ailleurs, que ce soit pour les enseignants-chercheurs qui travaillent sur le sport comme pour les autres enseignants-chercheurs, hein, puisque tout ce qui fait le sel de notre métier, c'est-à-dire le recueil de données, que l'on soit en histoire, les centres d'archives ont été fermés, mais vont l'être manifestement encore pour une durée assez importante. Les entretiens, le passage des questionnaires est devenu quasiment impossible. Donc effectivement, ça a bouleversé notre agenda de chercheurs. On était sur plusieurs programmes de recherche qui ont été soit stoppés, soit très fortement ralentis. Mais j'ai une pensée toute particulière pour les doctorants, que ce soit les doctorants de mon équipe, mais aussi tous les doctorants, hein, parce qu'eux, ils sont en temps contraint. Nous, on peut s'organiser. Voilà, le temps de la recherche pour un titulaire n'est pas le même que pour un doctorant. Et pour eux, effectivement, cette période de crise sanitaire, ça a été aussi une période de crise morale et individuelle assez forte, puisqu'il y a plusieurs doctorants qui ont dû stopper leur recherche, avec toutes les conséquences que ça va avoir pour eux, tant au niveau de leur carrière que de la valorisation de leurs travaux, que de la reconnaissance de leur recherche. Et moi, j'ai quand même une certaine inquiétude, surtout que, encore une fois, manifestement, la crise va durer. J'ai pas mal d'inquiétudes au sujet de l'avenir de nos doctorants.
Nous y reviendrons peut-être dans une prochaine émission de Chercheurs en ville. Michaël Attali, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci Christian Lebar et merci notre réalisatrice Lucie Noir. Et on vous donne rendez-vous dans un mois pour une prochaine émission de Chercheurs en ville sur Canal+.